Bonsoir à toutes et à tous. On va terminer aujourd'hui la première partie du cours. Et toute la finale, c'est-à-dire à partir de la page 21 jusqu'à la page 24, est destinée à renouer un peu les fils. Donc c'est ça que je voudrais essayer aujourd'hui, de renouer les fils de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant et de le faire pour aujourd'hui. Donc je rappelle, la question, elle est très simple, la première partie, la question herméneutique, la foi chrétienne c'est quoi? Et quand on veut répondre à cette question, on ne peut pas uniquement répondre avec un contenu de la foi. Donc la confession de foi avec son contenu. Parce qu'il y a un lien intime entre ce qui est à transmettre, donc je reprends la formule latine, le traditum ou le tradendum, n'est-ce pas, gérondif, ce qui est à transmettre et ceux et celles qui transmettent, les tradentes. Et ça, ça vaut d'abord pour le Christ, c'est-à-dire le Christ en transmettant l'évangile, finalement il se transmet lui-même, il se livre lui-même. Et c'est au fond la seule chose qu'il nous a laissé, hein. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Voilà. Rien d'autre. Après c'est la mémoire de la communauté primitive qui se met en route. Donc ce lien intime entre un contenu, donc ce qui est à transmettre, et ceux qui transmettent. Et on a vu la même chose chez l'apôtre Paul. J'aimerais bien vous, pas uniquement vous transmettre l'évangile, vous livrer l'évangile, mais comme une mère, ma propre personne, etc., etc. Et le concept de tradition, paradosis, voilà, est le lien intrinsèque entre les deux. Donc vous avez ça, c'est un peu le principe, si vous voulez, j'ai dit, toute cette première partie, à la page 20. Donc là, je le formule encore tout à fait en bas, sous forme de questions de fond. L'apôtre Paul relie intimement le traditum et ceux qui le transmettent, les tradentes. Ce lieu d'articulation est le don de soi du Christ, hein, ou la sainteté de l'apôtre qui crédibilise, et voyez, arrive déjà ici la question de la crédibilité, qui crédibilise ce qu'il transmet, voilà. Le don de soi de l'apôtre renvoie, hein, donc renvoie, il renvoie jamais à lui-même, c'est au nom de quelqu'un d'autre, c'est ça la tradition. Renvoie au don de soi du Christ, il s'est livré, qui lui renvoie au don de soi de Dieu, à savoir l'évangile de Dieu. Cette articulation intrinsèque entre le contenu et la forme de la tradition chrétienne doit être abordée en termes de style. Voyez là, style de vie, l'analogie de l'art, etc. J'insiste pas là-dessus. Donc si vous voulez, vous avez là le noyau. Alors que toute la tradition chrétienne s'est toujours battue finalement. Comment articuler cela ? Donc, soit vous avez la tendance vers l'objectivation, ou l'autre tendance, c'est-à-dire de revenir à l'événement kérigmatique lui-même. Voilà, alors, comment on va donc aborder ça aujourd'hui? Donc ça, c'est la troisième et la quatrième partie de ce chapitre. Donc je commence tout de suite, très rapidement, à reprendre l'essentiel et de continuer. Donc il faut d'abord reprendre, je dirais ici, dans la ligne des récits évangéliques qui sont notre matrice, pas uniquement Paul, mais aussi les récits évangéliques, la différenciation des sujets de la foi, les sujets de la foi. Et donc, pas uniquement les disciples, qui sont devenus les laïcs, et les apôtres, qui sont devenus les clercs, voilà, mais d'abord et avant tout quiconque. Donc la majorité des figures de ceux et de celles que Jésus rencontre ne sont pas devenus ses disciples. Quiconque. Et quiconque est un croyant. Et voyez, ça nous conduit, point B. vers une approche phénoménologique du croire. Qu'est-ce que c'est le croire? Si je ne réduis pas le croire immédiatement au croire chrétien. Et du coup, apparaît ici quelque chose de tout à fait fondamental, qu'on n'a pas tellement perçu à l'âge des Lumières, à l'époque moderne, mais auquel on est devenu maintenant très sensible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre humainement sans croire. Sans croire au moins que ça vaut la peine. Voilà la formule que je propose, c'est-à-dire. C'est le minimum vital. On ne peut pas vivre sans croire que ça vaut la peine de vivre. Ou disons d'une manière plus minimale encore, que ça vaut la peine de ne pas arrêter. Parfois, ça se réduit à ça. Vous voyez cette sorte de différence qui caractérise l'être humain entre l'instinct de survie et ce que j'appelle le croire que ça vaut la peine. Donc ça, c'est là, si vous voulez, le point où l'être humain émerge avec sa force, cet acte de foi. Et cet acte de foi se greffe, évidemment, sur ce qu'on pourrait appeler la créance, croyance, créance, vous rappelez les distinctions de Benveniste, se greffe sur la vulnérabilité radicale de l'être humain. Et donc la manière humaine de vivre cette vulnérabilité fondamentale, c'est pas uniquement l'instinct qui peut fonctionner immédiatement, l'instinct de survie, mais il faut se laisser initier dans une culture, dans une société. Donc l'éducation intervient ici et donc finalement un acte de confiance fondamental. Un acte de confiance fondamental. Sinon la société disparaît et l'individu aussi. Alors, ensuite, toujours à la page 22, vous voyez, la vulnérabilité humaine et le surgissement de la foi. Je vous invite aussi à retenir ici, donc à propos de cette phénoménologie du croire de quiconque, ce que j'appelle ici les trois niveaux de profondeur. Donc, l'expérience de vulnérabilité ou l'ouverture au monde, c'est le point de départ. Ensuite, l'émergence de la question du sens, au sens de, finalement, de l'orientation. Vous voyez, le sens, la notion de sens est magnifique en français. Vous avez à la fois un versant intellectuel, le sens de la vie, mais il y a le sens unique, sens interdit. Donc, c'est le problème de l'orientation. Et dès que, dans la vulnérabilité radicale de l'être humain, on émerge, on s'ouvre au monde, se pose la question de l'orientation. Je commence à marcher dans quel sens, dans quelle direction. Donc, et l'être humain est celui où la question de sens se relie à la totalité, au tout, la notion de tout, le tout de mon existence, entre naissance et mort. Alors je peux oublier ça quotidiennement, ce que Pascal appelle le divertissement. Mais sinon, je dirais, l'orientation concerne le tout de mon existence, c'est ça le sens. Je peux changer au cours de route, me convertir, etc. Voilà. Préciser les choses dans un sens ou dans un autre. Mais le sens concerne le tout entre, c'est ça la contingence de l'être humain, entre la naissance et la mort. Ça, c'est donc le deuxième niveau. Et donc ensuite, le troisième niveau, c'est là où les êtres humains se différencient toujours plus, c'est la modalité. Comment je vis cela? Comment je vis cela, cette orientation vers le tout? Comment je vis ma contingence? Sous mode de refoulement, c'est-à-dire, vous savez, l'idéologie, hein, le sens est déjà là, manière de vivre ça de manière fondamentaliste. Il y a tous les éléments où l'indécision de l'existence, c'est une autre manière. Et la foi, maintenant le croire, au sens biblique du terme, émerge précisément à cet endroit-là. C'est au fond, comment dire, le passage de l'angoisse à la gratitude. Un sentiment élémentaire de gratitude. Et c'est peut-être ça qui, selon la Bible, caractérise ultimement tout être humain. Voilà. Ultimement. C'est-à-dire ce sentiment, entre guillemets, cette attitude fondamentale, cette manière d'interpréter le tout de son existence, finalement, oui, ça vaut la peine, ça vaut la peine, c'est pas uniquement ça vaut la peine, c'est pas mal. C'est pas mal, malgré tout, pour le dire de cette manière-là. C'est bon. Vous voyez, et c'est là où on retrouve, je dirais, le début du récit biblique. C'est bon. Voilà, quelque part. Donc, un sentiment de gratitude, et peut-être, je ne sais pas, on ne sait jamais, peut-on dire, finalement, en tout être humain, sourd cet appel à une gratitude. La vie est une promesse qui tient la vie. La vie est quelque chose qui tient sa promesse. La vie tient sa promesse. Au fond, c'est ça, l'acte de foi. Malgré, on parlera dans la deuxième partie du mal, évidemment, qui est le grand antidote, l'expérience du mal, malgré. Alors, d'où la définition du croire. Et je renvoie ici à la page 8 aussi déjà de votre polycopier, la première séance. Je me confie au mystère de l'existence qui se trouve au cœur de ma vulnérabilité, croyant, voilà, que je ne serai pas perdant. Voilà, une manière très élémentaire de définir l'acte de foi de quiconque, de tout être humain. On peut espérer ça pour tout être humain. Et se cache ici, dans cette définition, une inversion possible qui va caractériser la foi biblique et finalement la foi chrétienne. Une inversion. Vous voyez, la foi chrétienne n'ajoute rien ici à cette formule, mais elle change l'ordre des choses. Une possibilité d'inversion, c'est le mystère. Alors là, on peut parler du mystérion. Vous voyez, c'est un des trois termes du triangle évangile, mystère, révélation. C'est le mystère qui m'attire à lui et crée en moi la confiance, me permettant ainsi dire véritablement mon je au cœur de ma vulnérabilité. Cette inversion, alors on va y revenir dans quelques instants, elle est au cœur de l'acte de foi maintenant des disciples. Et je dirais déjà des disciples, je dirais implicites d'une certaine manière, qui est un Abraham et qui est le psalmiste, n'est-ce pas ? Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Là, vous avez cette inversion. La lumière de Dieu, hein, qui ouvre nos regards à la lumière quotidienne. Là, c'est inversé. Alors, ça s'inscrit, évidemment, c'est le point C, et maintenant le dernier, je dirais, de cette phénoménologie du croire, dans un itinéraire. Ça, c'est le point important, maintenant. Et on va prendre un bon moment, je dirais, pour expliciter ça. Un itinéraire. Vous voyez le titre du cours de théologie fondamentale, itinéraire de théologie fondamentale. L'être humain est un itinéraire. Et le paradigme de l'itinéraire, c'est l'itinéraire évangélique lui-même. D'où la définition à la page 21, où vous avez ça, le point A. Les évangiles sont des récits de conversion. J'aurais pu dire d'inversion. Vous voyez, je viens de parler de cette conversion, de cette inversion, que tout d'un coup Dieu devient premier, qui ne mettent pas seulement en scène l'itinéraire de Jésus, du début jusqu'à la fin, mais en même temps, ce qu'il devient pour ceux et celles et en ceux et celles dont l'itinéraire croise le sien. Voilà. Donc ça, vous voyez, ça c'est le paradigme. Et donc je vais m'arrêter un peu à cela maintenant, et on va retrouver le même itinéraire dans la deuxième partie du cours, mais là, davantage sous l'angle de la crédibilité. Donc, je vais l'exposer deux fois. Alors, maintenant la première fois. Donc, l'itinéraire spirituel de l'identité croyante. Pourquoi j'ai mis spirituel entre guillemets ? Parce que j'entends évidemment pneuma, l'esprit. Alors, donc, je viens de retracer de nouveau, de relire la définition du genre littéraire évangile. C'est au fond la seule chose que la communauté primitive, d'un point de vue littéraire, a inventé de nouveau. On a toujours eu des lettres, des apocalypses, etc. Mais le récit évangélique, ça c'est nouveau, ça. Et au cœur du récit évangélique, il y a la relation, dans la définition que je viens de vous donner, c'est très net, il y a la relation des récits de conversion qu'ils mettent pas seulement en scène l'itinéraire de Jésus, mais en même temps ce qu'il devient en et pour ceux et celles. Donc ce sont des récits de croisement, pourrait-on dire, de rencontres, de multiples rencontres. On a le récit de Jésus du début jusqu'à la fin. On va revenir à ce début et à sa fin, notamment la deuxième partie. Mais en même temps, bon, on a aussi les disciples dès le départ jusque presque à la fin. Ils vont revenir avec la résurrection. Sous la croix, ils ont pris la tangente. Mais il y a surtout le quiconque. Les multiples quiconques qui émergent et qui disparaissent. Des récits de rencontres, des épisodes de rencontres décisifs. Et donc on va maintenant, si vous voulez, je dirais, prendre les différentes figures. D'abord, je dirais le premier, donc le quiconque qui se multiplie. Donc, vous avez une multitude de situations dans les récits. C'est incroyable quand on regarde un peu de près, quand on les compare. Donc on va prendre d'abord cette figure-là. Et alors, avec, je dirais un peu, qu'est-ce que c'est ce type de foi? Donc, j'aime bien ici, si vous voulez, quand on regarde un peu ces figures dans les récits, donc je fais appel à votre mémoire évangélique, qui est sûrement vive, on a toujours un peu le même type de situation au point de départ. Il y a la foule, et il y a quelqu'un, quelqu'une, une femme, un homme qui se singularise. Donc c'est l'apparition de la singularité. Et il faut du courage pour sortir de la foule. Ça peut se faire d'une manière plus ou moins cachée, comme avec la femme hémorroïde. Ça peut se faire avec sachet, sur son arbre. Ça peut se faire par l'éruption. Vous voyez, Jésus est dans une maison et par en haut, on détecte, on enlève les tuiles et on le fait descendre quelqu'un. Vous voyez, vous avez ces la singularisation de quelqu'un. Et c'est absolument remarquable parce que la singularisation permet de sortir de l'indifférence de la foule, de l'indistinction de la foule, et tout d'un coup, on est devant quelqu'un. Donc la rencontre, on est devant quelqu'un. Et donc d'une certaine manière, l'intériorité peut s'exprimer ici. L'intériorité, pensez toujours à la femme hémorroïde ici, elle avait pensé en elle-même, elle avait vu beaucoup de médecins, etc. Vous connaissez cette histoire, elle n'est pas très gentille pour les médecins, elle a tout dispensé, etc. Donc singularisation. Et elle le touche. Et lui, il se rend compte qu'elle l'a touché. Et qu'est-ce que dit le texte? Il y a une dynamis qui sort de lui. Dynamis, j'ai mis le terme ici. Si vous voulez, c'est d'ailleurs la première fonction ensuite de l'Esprit Saint. Une dynamis. Mais n'entendons pas tout de suite Esprit Saint, parce que vous mettez des concepts sur une situation concrète. Dynamis, une énergie. Vous voyez, on peut dire aussi, c'est pas la maladie pour Jésus qui est d'abord contagieuse, mais c'est la santé qui est contagieuse. Ça renverse, c'est une première conversion. Très fondamentale, notre approche des choses et des êtres humains. C'est la santé qui est contagieuse. Et ce sont donc des récits de guérison. Mais Paul Tillich, un théologien remarquable, allemand, ensuite américain, il a fui le nazisme, fait une théologie de la culture, il a forgé ici ce terme extraordinaire de courage d'être. Au fond, Jésus, ce que dans ses récits de guérison communique à cette femme ou dans d'autres situations, c'est cette énergie qui sort de lui et qui sort simultanément de la femme elle-même. Parce que cette énergie, elle est déjà là avant pour aller le toucher, de transgresser, si vous voulez, le pur et l'impur. Elle a des flux de sang, etc. Elle est une femme, elle n'est pas un homme, etc. Voilà. Il y a une sorte de transgression, un courage. Le courage d'être, voilà le terme. le courage d'exister. La dynamis, c'est exactement ça. Et c'est la première manifestation, au fond, de la foi de quiconque. Donc Jésus lui dira, c'est ta foi qui t'a sauvé. Il dit pas, je t'ai sauvé. Jamais le Jésus des synoptiques dit, je t'ai sauvé. C'est ta foi qui t'a sauvé. Donc, dans cette relation, c'est ça qui émerge. Alors, ce sont évidemment des expériences comme pour nous, c'est ça leur actualité, souvent greffées sur des situations d'exclusion sociale, comme ici dans le cas de la femme et Maurice, ou de maladie. Souvent, les deux vont de pair et se lient évidemment à la maladie, à l'exclusion sociale, un troisième terme, la culpabilité. La culpabilité. Les trois font souvent corps. Je suis malade, je suis exclu et j'en suis moi-même la victime de ma propre culpabilité. Et donc il y a cette émergence d'un courage d'être. Et voyez, vous avez ici des métaphores extraordinaires que nous livre Isaïe déjà, que Jésus reprend, le Jésus mathéen. Lui ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui fume encore. Voyez, l'être humain comme un roseau froissé et comme une mèche qui fume encore et qui dit exactement cette situation de notre vulnérabilité. Et donc le croire, être debout, être mis debout, le courage d'exister. Et on voit bien que la foi qui transporte les montagnes est cette colonne vertébrale spirituelle de l'être humain qui tout d'un coup se met à vivre face à cet homme. Voilà, si vous voulez, la foi, je dirais, élémentaire. Et il y a quelque chose de démesuré qui émerge ici. J'introduis ici la notion de démesure. C'est démesuré ce que fait cette femme. C'est démesuré ce que font les quatre hommes porteurs dans leur solidarité de détecter le toit et de faire descendre cet homme au milieu de Jésus. Et Jésus lui dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Tes péchés te sont pardonnés. C'est démesuré. Et ce qui est démesuré, c'est notre unicité. C'est notre unicité. En tout être humain, il y a quelque chose de démesuré à la mesure. Une démesure à la mesure d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. Voilà. Ça, c'est l'unicité. Quelque chose de démesuré et qui s'avère, c'est peut-être ça la grâce, qui s'avère dans telle ou telle situation, subitement, comme étant à ma mesure. C'est ta foi qui t'a sauvé. Et elle est là. Et au fond, l'essentiel s'est passé, elle peut partir. Et on ne connaît plus la suite de son histoire. C'est ça qui est magnifique dans les récits évangéliques. L'essentiel est passé. Et c'est passé. Et ça, ça correspond parfaitement à beaucoup de nos situations pastorales. J'ai dit ça un peu en passant. On perçoit quelqu'un, subitement. On a quelques minutes, parfois un peu plus, il y a quelque chose d'essentiel qui se passe et la personne disparaît. Voilà. Il voit son chemin. Et le royaume est passé là. Il est passé là. Et la personne n'est pas devenue chrétienne. Pas la question. C'est pas la question. Voilà. Donc la première figure. Alors ensuite, évidemment, il y a un seuil. Je vous invite de jeter déjà un coup d'œil sur le schéma à la page 23. Vous voyez, il y a une flèche horizontale qui va de gauche à droite et qui indique un itinéraire, l'itinéraire des évangiles. Donc il y a quiconque, c'est la majorité. Et ensuite, on aborde une deuxième figure, alors qui est là pratiquement depuis le début jusqu'à la fin. C'est la figure du disciple. Et là, il y a un seuil qui deviendra dans la communauté primitive le seuil baptismal. Mais qui n'est pas un plus, je le dis tout de suite, qui n'est pas un plus, mais qui est une relation explicite avec cet homme de Jésus de Nazareth. Alors voyez, il y a quelque chose de magnifique que les récits évangéliques nous communiquent ici, c'est-à-dire... Au fond, c'est la logique suivante. Le don cache le donateur. Retenons bien cela. Le don cache le donateur. Le cadeau, quand il est vraiment un cadeau, est faite à quelqu'un, c'est gratuit. Ça ne crée pas une dette. Alors, dans nos sociétés, souvent, oui. Alors, on appelle ça parfois un cadeau empoisonné. C'est-à-dire, je reçois quelque chose et je me dis, mais comment je vais rendre ça? Alors, dans le récit évangélique, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ça qui est extraordinaire. Le don cache le donateur. Et quand vous relisez bien le récit des 10 lépreux chez Luc, il y en a 9 qui ne sont pas revenus, mais qui sont guéris. Ils sont guéris. Il y en a un qui est revenu. Et nous entendons dans notre logique toujours la question de Jésus, mais il y en a 10 qui sont guéris, il y en a un qui est revenu, comme si Jésus était déçu. Ils ne lui ont pas rendu. Mais il se réjouit qu'il y en a un qui est revenu. Et il se réjouit aussi des 9 autres qui sont guéris. Le texte ne dit pas comme ça. Mais quand vous regardez la logique de Luc, vous comprenez cela. Donc le don cache le donateur. Mais il y a certains, et c'est précisément les disciples, qui s'intéressent au donateur lui-même. Et c'est ça la spécificité du chrétien. Le chrétien n'est pas uniquement, ou du disciple, bénéficiaire de la vie et de la foi pour pouvoir vivre jusqu'au bout, première définition du croire que vous avez là-haut, hein, sans l'inversion, mais il se retourne vers le donateur. Et dans le don, il s'intéresse. Comme dit saint Paul, connaître l'intériorité du Christ. L'épître aux Philippiens. Voilà. Il n'y a rien de mieux et de plus heureux que de connaître, voilà, le Christ. Donc ça, c'est le disciple. Donc le passage gratuit et libre où on se retourne vers le donateur. Et c'est ça que nous racontent les récits. Alors là, vous avez les deux figures, évidemment, parce que c'est quelque chose de gratuit. Ça, chez saint Jean, c'est l'initiative du disciple lui-même. « Rabbi, où demeures-tu ?» Mais évidemment, c'est relié à d'autres qui ont montré. Il y a quelqu'un, il faut s'intéresser à celui-là. Il faut s'intéresser à celui-là. Donc ça vient par d'autres. Ou, chez les synoptiques, « Suis-moi, suis-moi. » Donc la relation. Mais cette relation, vous voyez que nous avons tellement mis au centre de la chrétienté, elle ne doit pas exclure les multiples quiconques. Les multiples quiconques. Mais il y a un passage. Alors, comment comprendre le passage? Donc, je viens de vous parler de l'identité du disciple, le premier point. Maintenant, vient une réflexion sur cette relation. La relation, donc, entre les disciples et Jésus, qui est évidemment, au point de départ, une relation asymétrique et non réciproque. C'est le propre du disciple de suivre le maître. Suis-moi. Ou chez saint Paul, c'est l'imitation. Mais le propre de cette relation asymétrique, c'est de devenir symétrique et réciproque. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Et le propre de l'ami, donc, c'est chez saint Jean, vous connaissez ce texte, chez saint Jean, le propre de l'ami, c'est de connaître l'intériorité de l'ami, ce qui l'anime, son dessein. Alors le serviteur ne connaît rien, il l'exécute. Voilà. Donc le passage. Et voyez, ce passage est très complexe, parce que ce passage qui se vit aussi à l'intérieur du groupe des disciples, hein, est un passage qui traverse finalement la violence. Et on va bien, je dirais, dans les, notamment chez Marc, dans la deuxième partie, apparaît immédiatement la question, mais qui est le plus grand? Voyez, on est dans la comparaison. On est dans la comparaison. Et au fond, je dirais, la relation au Christ introduit dans ce champ de bataille, pourrait-on dire, connaître ce qu'est le Christ de l'intérieur, ce qu'il est de l'intérieur, et donc entrer dans ce champ de bataille où je dois sortir de la comparaison. Ce que la femme hémorroïde fait spontanément, pour les disciples, c'est un problème. beaucoup de quiconque n'entrent pas dans la comparaison, beaucoup dans l'écriture là. Les disciples, voyez, Marc est très sévère par rapport aux disciples. Il y a la foi et la non-foi. Matthieu et Luc sont plus, ils parlent de peu de foi. Entre rien et tout, il y a peu de foi. Il suffit peu de foi. Donc il y a tout un champ de bataille spirituel dans lequel on entre quand on devient disciple. Par le fait même qu'on le connaît de l'intérieur. Et donc faut traverser les comparaisons, si vous voulez, la balance. Qui est le premier? Et donc, quand vous avez une balance qui va dans un sens, il faut agir contre ça, il faut la mettre au contraire. C'est le dernier qui est le premier. Mais c'est peut-être pas l'ultime parole. C'est-à-dire, l'ultime parole, c'est l'amitié. C'est l'amitié. Alors ça, c'est chez Saint Jean. Et donc, c'est l'heureuse traversée, si vous voulez, de la comparaison. Une symétrie dans la relation sans cesse menacée par la violence. À l'intérieur de l'Église elle-même. À l'intérieur de l'Église elle-même. Et peut-être là encore davantage. Davantage parce que désormais la balance est là. La balance est là. On a l'hymne aux Philippiens, nous. Qui est le premier? On a tout ça. Et donc apparaît ici un deuxième terme. Vous voyez le terme de crisis, de jugement. Au cœur de la foi, il y a une dynamisme. Et donc ça, ça va pour quiconque. Mais quand le disciple devient disciple, il entre dans une crisis, un jugement. Vous voyez, le jugement, c'est simplement ce jeu de la balance. Alors, je vous ai sorti ici un magnifique texte de Philon d'Alexandrie pour vous montrer que cette crise, ce jugement au cœur de la foi, n'est pas propre, si vous voulez, je dirais, au Nouveau Testament. Mais on le trouve ici. Et je l'ai choisi surtout à cause du terme « ami de Dieu », « théophile ». Donc vous voyez, c'est l'adressat de l'œuvre de Luc, « cher Théophile ». Ça veut dire « ami de Dieu », c'est sans doute une figure. Voilà. « Tous les amis de Dieu s'appliquent à échapper au tourbillon des affaires constamment bouleversées par l'agitation des flots. » Vous voyez, on est dans cette métaphorique, magnifique, poétique, « pour se mettre au mouillage dans les ports calmes et sûrs. » Ne vois-tu pas, comme il est dit à Abraham, comme il est dit d'Abraham, le sage, qu'il se tient debout en face du Seigneur. Et donc, la méditation de Philon d'Alexandrie, donc ce juif d'Alexandrie, porte sur ce debout. En effet, quand il est normal pour l'intelligence, alors l'intelligence c'est toute la vie spirituelle ici de l'être humain, de pouvoir se tenir debout sans plus osciller comme sur une balance. Vous voyez cette balance de la comparaison, suis-je le plus grand, le plus petit, qui suis-je? Vous voyez le complexe d'infériorité spirituelle, etc. Sinon, lorsqu'elle est en face de Dieu, regardez. Ah, vous avez là l'inversion dont j'ai parlé tout à l'heure. Regardant, donc Abraham debout, le croyant par excellence, ou comme dit saint Paul, le père de notre foi, en qui toute notre foi est déjà présente, il a vu d'avance le Christ, chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Voilà. Donc, voir Dieu, regardant. Et qu'est-ce que je vois quand je vois Dieu dans la foi? Que je suis regardé. Donc vous voyez cette inversion. Le regardant regardé. On va trouver ça dans toute la tradition chrétienne. Dans tous les textes spirituels. Chez saint Anselme, on le trouve chez Nicolas de Cuse. Vous voyez, le regardant regardé. C'est très important ce point. Parce que, si vous voulez, je veux dire, on peut avoir deux positions par rapport à ça. Donc, le rapport à Dieu maintenant. Vous voyez, cette inversion fondamentale que le disciple vit. On peut avoir deux positions par rapport à là. On peut dire, pour le moment, je regarde Dieu, et un jour, dans l'éternité, je serai regardé par Dieu. Donc, cette sorte d'ajournement. Mais, au fond, quand on regarde de près, dans le Nouveau Testament, tout le, par exemple, je dirais, l'homme riche qui veut suivre le Christ. Voilà. Le Christ le regarde. Qu'est-ce qui se passe dans le regard? Voyez. Alors, Luc est extrêmement sensible à ça. Et Paul, il a une tendance plutôt, je dirais, à ajourner les choses. Alors, chapitre 13, la première lettre aux Corinthiens. Alors je serai regardé comme je regarde, je serai vu comme je vois. Alors là, il y a cette coïncidence, évidemment, la coïncidence ultime entre mon regard de foi et le regard de Dieu, c'est pour l'éternité. Mais déjà maintenant, on a ce regardant regarder. La foi est ça, c'est-à-dire. La foi du disciple, c'est un regard de Dieu regardé. Et ça se passe dans l'échange entre les disciples et la figure du Christ. C'est ça la spécificité. Alors je continue un peu la lecture. En effet, quand est-il normal pour l'intelligence de pouvoir se tenir debout sans plus osciller comme sur une balance, sinon lorsqu'elle est en face de Dieu, donc la foi en face de Dieu, regardant et regardée. Car alors, son équilibre vient de deux choses. De ce qu'elle regarde l'incomparable. Donc la foi regarde l'incomparable. Qui est l'incomparable? Dieu. L'incomparable. Et de ce fait n'est pas tirée en sens contraire par des réalités semblables à elle. Et de ce qu'elle est regardée, donc l'inversion, parce que l'âme que le maître a jugée est digne de son regard, il l'a élue pour sa seule excellence, lui-même. Ouais, c'est magnifique ce texte, un texte mystique hein, en même temps. Donc vous voyez, c'est à la fois très rationnel et très mystique, c'est-à-dire au fond, l'idée c'est la comparaison. Ce qui perd l'homme et ce qui perd le disciple d'une certaine manière ou qui risque et qui doit traverser, c'est la comparaison. Qui est le plus grand, qui est le plus petit? Et donc évidemment Jésus réagit contre le plus grand par le plus petit, l'enfant, la figure de l'enfant, par excellence de la foi. Ou l'hymne aux Philippiens, ou le lavement des pieds, vous voyez. Donc l'inversion des positions. Mais ultimement, cette inversion des positions conduit vers ce type de regard, regardant, regarder, où seule l'excellence unique de chacun compte devant Dieu. Et là, vous avez l'inversion. Vous avez l'inversion. Et ça produit ensuite, alors, dernier terme, crisis et finalement métamorphosis, transfiguration, métamorphosis. La transfiguration. Voilà, je dirais, l'itinéraire du disciple. C'est le troisième et dernier terme. Donc, on a parlé de l'inversion, de la crisis, et maintenant de la métamorphosis, de la transformation, c'est la transfiguration du Christ, mais qui est évidemment appliquée aux disciples. Nous tous, voilà, le visage dévoilé, nous reflétons à l'instar d'un miroir la gloire du Seigneur. C'est le présent. 2 Corinthiens 3, 18. Donc c'est la métaphore du miroir qu'il faut maintenant absolument introduire ici. La métaphore du miroir est absolument magnifique parce que le miroir, vous voyez, je vois dans le miroir le visage de moi-même, mon identité. Alors là, le miroir, c'est Dieu lui-même. L'homme créé à l'image de Dieu, et d'une certaine manière, à travers la crisis, le jugement, le miroir doit se briser, pour que advienne donc l'excellence de l'être humain dans le regard de Dieu. de l'incomparable. Et ça, c'est la transfiguration. Donc la métaphore du miroir, vous l'avez déjà dans le livre de la Sagesse. Je vous invite à regarder ça, je vous ai mis la référence, Sagesse 7, 26. Et vous avez évidemment dans le 2 Corinthiens 3, chez saint Paul, célèbre chapitre, je viens de citer la finale, « Nous tous, le visage dévoilé », donc vous voyez, l'être humain est pas son, avec le voile, mais il est en face, les uns en face des autres, et debout en face de Dieu, nous tous le visage dévoilé, nous reflétons, à l'instar d'un miroir, la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Alors le texte de la Sagesse. La Sagesse est un reflet de la lumière éternelle. Donc la Sagesse, elle est au cœur même de la création. Un reflet de la lumière éternelle. Un miroir, donc au cœur de la création, sans tache de l'activité de Dieu et une image de sa bonté. Donc vous voyez, ça c'est cette idée déjà à la fin de la littérature vétérotestamentaire dans le livre de la Sagesse, que Dieu l'unique, l'incomparable, auquel s'adresse la foi, voyez, l'incomparable, n'est pas uniquement à l'extérieur, mais est au plus profond de toute la création et en tout être humain, à la fois à l'extérieur et au plus profond de l'intérieur de la création. Donc il est l'image, il est le miroir de la bonté de Dieu, le miroir sans tache. Le texte continue. Comme la Sagesse est unique à, voyez, l'unicité, elle est incomparable. Comme elle est unique, elle peut tout. Elle peut tout parce qu'elle est unique. Elle n'est plus, si vous voulez, empêchée par la comparaison, par la violence, etc. Elle peut tout. Demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers et au long des âges, elle passe. Elle passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu. Des théophiloi, des amis de Dieu et des prophètes. Voyez, donc vous avez ça, là, ce processus fondamental qui est initié, évidemment, je dirais, dans l'Ancien Testament, la figure d'Abraham, la sagesse, etc. On ne peut pas retracer tout ça, mais qui s'actualise et se concrétise quand quiconque devient disciple de celui que les premiers chrétiens appellent la sagesse de Dieu. Il est, lui, le Christ, la sagesse de Dieu, le premier-né de toute créature. Donc, dans ce jeu de relations, où il s'agit évidemment de passer par une crise, par un jugement, c'est-à-dire l'ambition doit être traversée, seul Dieu peut faire ça, la bonté radicale, l'évangile de Dieu, et du coup s'institue un nouveau type de relation que Paul décrit admirablement, en parlant, nous tous, le visage dévoilé, nous reflétons à l'instar d'un miroir la gloire du Seigneur. Ça, c'est la communauté primitive qui est signifiée ici. Voilà donc, le disciple croit en Dieu. Il passe par la crisis pour accéder à la métamorphosis. Et la tradition spirituelle a inventé ici un terme, l'autre Christ. Parce qu'évidemment, le propre du Christ, c'est de passer en ses disciples. Maintenant, j'espère que vous comprenez bien la définition du récit évangélique que j'avais donné. Donc, des récits de conversion, voilà. En même temps, ce qu'il devient lui, en et pour ceux et celles dont il croise le chemin. Le disciple ne traverse pas la passion comme le maître, mais avant que le maître, selon les récits évangéliques, entre dans la passion, il y a les discours d'adieu, c'est bien que je m'en aille, sinon l'esprit ne peut pas venir. Et il les emmène à travers la passion, parce qu'il a déjà dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc il passe en. Donc vous voyez, ça c'est donc le processus de la dynamis par la crisis, à la métamorphosis, de la dynamis par la crisis à la métamorphosis, l'itinéraire du disciple du Christ. Mais tout est déjà donné dans le, pour le quiconque. Et en même temps, ça vaut la peine de devenir chrétien si on est séduit par le Maître, parce qu'on entre alors dans l'inversion et dans l'intimité même de Dieu. Auto-communication, auto-révélation, j'y reviendrai dans quelques instants. Alors, devenir apôtre, troisième et dernier temps, dernière figure, vous voyez les douze, la figure des douze, ou chez Luc, c'est-à-dire vous avez une conceptualisation déjà, c'est pas uniquement la symbolique des douze, mais c'est la figure de l'apôtre, apôtre, avec le douzième qu'il faut remplacer parce qu'il a mal tourné, c'est le récit de Matthias, voilà, au début des actes des apôtres. Donc vous avez les appels, alors là il y a quelque chose de très précis, Marc 1, 16 suivant, Marc c'est les disciples, ensuite Marc 3, l'appel des douze, et Marc 6, l'envoi des douze. Il monte dans la montagne, il appelle ceux qu'il voulait, donc c'est un acte de souveraineté, ceux qu'il voulait, le texte le souligne, parmi les disciples, voilà, il appelle ceux qu'il voulait, il vint à lui, il en établit 12 epoisen, c'est-à-dire c'est un acte de création. Il les crée, il les institue 12. 12. Pourquoi? Le texte est précis. Pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher avec autorité, de chasser les démons, etc. Donc les 12, si vous voulez, il y a deux choses qu'il faut retenir. Donc c'est un collectif. Vatican II parle de collégialité, un collectif. Donc s'il y en a un qui tourne mal, tous doivent demander, ne serait-ce que moi, serait-ce moi. Chez Matthieu, c'est ça. Tous sont concernés. Tous sont concernés. Donc le péché n'est pas uniquement chez un, mais chez les 12. Tous sont. Voilà. Il les institua. Donc ça c'est, et l'idée de l'envoi, et qui est tout à fait central parce que ça concerne évidemment Jésus lui-même. Il est comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Il n'y a pas d'évangile. Personne ne peut annoncer l'évangile en son propre nom. Même Jésus de Nazareth ne l'annonce pas en son propre nom. C'est exorbitant, l'évangile. L'évangile de Dieu. Donc, vous voyez ce que j'ai appelé tout à l'heure, tout à fait au début de la séance, en revenant à la page 20, la notion de renvoi. L'apôtre renvoie au Christ, le Christ renvoie à son Père. Et l'envers de renvoi, c'est l'envoi. Il n'y a pas d'évangile sans envoi. Donc, l'envoyé, les 12 envoyés, et Hébreux chapitre 3, verset 1, va jusqu'à appeler Jésus lui-même l'apôtre. Le grand apôtre de notre foi, ça c'est Jésus. Donc, pour créer ici l'équilibre, il est lui-même envoyé. Donc, il y a quelque chose, si vous voulez, comme une sorte de multiplication. Vous avez, au fond, je dirais, deux séries de multiplication. Vous avez les multiplications des pains. Mais avant la multiplication des pains, le Messie lui-même se multiplie. Le Messie lui-même se multiplie. C'est une formule forte, mais qui est juste. C'est de dire Jésus, n'ayant pas le don de la bilocation, autorise d'autres à être comme lui, mais avec lui. Et apparaît ici une notion tout à fait décisive, c'est la notion du berger. Berger. Face à la foule, Jésus découvre qu'il est berger. Ils étaient comme des brebis sans berger, avec toute cette critique qu'on a chez Ézéchiel, des mauvais bergers. Et donc, l'apôtre, la troisième figure, est dans la suite du Christ berger. Les 12 envoyés bergers, figure pastorale. Alors, donc, j'appelle ça ici une logique de relais. Vous voyez, comme si à l'intérieur de l'évangile et de l'envoi, il y a cette idée de relais. Jésus passe le relais aux 12. Et en même temps, il passe en eux. Ils passent en eux, l'Eucharistie, et leur passent le relais. Et les douze passent de nouveau le relais. Et donc, il y a cette logique de relais à l'intérieur de l'annonce même de l'Évangile. Ça, c'est la figure apostolique. Alors, je récapitule, et on termine, et on va passer à la finale de cette partie. Donc, le schéma que vous avez devant vous. Donc, il est apparemment linéaire. Comme tout schéma. Comme le récit, il est linéaire. Donc, l'émergence des multiples figures de foi. Quiconque. Ça, c'est l'universalité du christianisme. Quiconque. Les chrétiens s'intéressent à quiconque. Et donc, devenir disciple du Christ, c'est s'intéresser à lui et découvrir derrière le don, le donateur lui-même. Et en découvrant le donateur, c'est découvrir que la première préoccupation du Christ berger, c'est quiconque. À l'improviste. Donc, on ne devient pas disciple pour son propre confort, mais on vient disciple du Christ, du Messie, en s'intéressant avec les instincts du Christ, les entrailles du Christ, à quiconque, sur les routes de la Galilée, d'aujourd'hui, d'hier et de demain, dans le monde entier. Ce que le pape François, dans Evangelii Gaudium, appelle le disciple apôtre. Le disciple apôtre. Et donc, il y a la figure apostolique des douze qui deviendra décisive dans l'histoire de l'Église, avec la succession apostolique, on parlera à la fin du cours de ça. Mais cette figure, vous voyez, on ne devient pas apôtre pour soi-même, on devient apôtre au sens fort du terme des douze, et de Paul, et des 72, etc., pour s'intéresser à quiconque, oui, c'est-à-dire en autorisant les disciples à s'intéresser à quiconque. Donc, vous voyez, c'est pour ça que la flèche retourne à un moment donné. Donc, c'est une circularité. Quiconque devient disciple, apôtre, mais on devient apôtre quand on reste disciple qui s'intéresse à quiconque. Et ce qui rend possible ça, c'est la rencontre de Dieu, de l'évangile de Dieu, de la bonté absolue, la figure du Père, de l'incomparable. Vous voyez, là aussi, les flèches vont dans les deux sens. C'est l'inversion de la définition de la foi. Je crois qu'on comprend mieux maintenant la deuxième version de la foi. C'est le mystère qui nous attire. Dieu, le mystère, qui m'attire à lui, crée en moi la confiance, me fait sortir de la balance, si je puis dire, me permettant ainsi de dire véritablement « je », au cœur de ma vulnérabilité, et ça c'est le début de la transfiguration. Voilà, alors, à partir de ça, on peut entrer maintenant dans le retour sur le commencement de la partie. Donc on a lu, si vous voulez, théologiquement, dans une perspective herméneutique, qu'est-ce que c'est le croire chrétien ? On a lu le récit évangélique, avec évidemment une réflexion anthropologique à l'arrière-plan. Alors, dernier point maintenant. Croire en un Dieu. Donc, vous voyez, je reprends maintenant la deuxième version de la définition du croire. Croire en un Dieu qui, l'inversion, s'est livré définitivement une fois pour toutes à notre histoire pour être reçu aujourd'hui. Alors, pour arriver à ce qui est écrit en italique, quelques remarques. Donc, l'ensemble de cette partie, je récapitule là, voilà, pour vous aider à renouer, je dirais, les choses, de sortir d'une certaine linéarité et arriver peut-être, après cette traversée vous-même, en reméditant les choses, un peu à une synthèse personnelle. Hein, à une synthèse personnelle. Et à des mots personnels. pour dire cela. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est ça l'enjeu de la fonction herméneutique de la théologie fondamentale, de trouver, de discerner le constitutif du croire chrétien. Et un constitutif qui est constitutif toujours historiquement situé. Donc un constitutif aujourd'hui, dans notre situation culturelle. Le constitutif chrétien dans la situation de la modernité occidentale, vous rappelez, c'était la première étape, Vatican I, Vatican II, peut-être le dernier concile de la modernité occidentale, en Occident, c'est-à-dire avec l'idée de liberté et de l'autonomie, finalement, la sécularisation, vous rappelez de ça. Et aussi dans la postmodernité, c'est-à-dire avec une conscience culturelle maintenant mondialisée, le pluralisme culturel. J'ai commencé par là, cette première partie, le pluralisme culturel radical. Voilà, comment dire aujourd'hui, dans cette situation, le constitutif? Un constitutif, un essentiel, qui n'est pas immédiatement perceptible. Et qui doit tenir compte des surprises. Quelle surprise, l'élection de Jean XXIII et convocation du Concile. Quelle surprise, etc. Alors, étant donné que la tradition chrétienne, donc page 23, se manifeste selon une pluralité de figures, c'est ça l'hypothèse actuelle. Il n'y a pas une seule figure chrétienne. Et catholique veut dire pluriel, interne, universel en ce sens-là. Pentecostal, voilà. Pluriel. Étant donné que la tradition chrétienne se manifeste selon une pluralité de figures, la tâche d'une herméneutique fondamentale consiste à discerner ce qui est constitutif aujourd'hui. Je viens d'expliciter ça. Et non pas hier. Alors, première étape de ce discernement, le retour au triangle biblique, c'est-à-dire les trois termes, évangile, mystère, révélation. Donc la formule, la mystérieuse auto-révélation, c'est l'époque moderne qui introduit le auto, Vatican II timidement, Vatican I timidement et Vatican II avec force. La mystérieuse auto-révélation de Dieu, et Vatican dira même dans Dei Verbum, vous avez lu ça maintenant, 6, auto-communication, Dieu s'est communiqué lui-même. La mystérieuse auto-révélation de Dieu comme évangile, et sa transmission historique et culturelle, ça c'est le premier critère du constitutif. Quand je dois discerner le constitutif, il me faut un critère, doivent concorder. La manière de Dieu de se révéler, de se communiquer, ne doit pas être contredit par notre manière de transmettre la foi. Ça marche pas sinon. Il faut une concordance ici. Concordance que j'appellerai dans la deuxième partie, sainteté. L'Église sainte. Et donc, à la page 20, j'avais déjà introduit ce terme. Donc c'est la concordance entre le contenu et la forme comme critère fondamental. Voyez ce que je disais tout à fait au début de cette séance, une fois de plus, on ne peut pas séparer le contenu de la foi et ceux qui le transmettent. C'est ça le problème. C'est à la fois ça le critère, et c'est en même temps le critère qui est problème. Maintenant la formule. Dieu se livre entre les mains des hommes. C'est ça que nous racontent les récits évangéliques, et notamment les récits de la Passion. Il se transmet, c'est le même mot, radicalement aux hommes. Ce qui veut dire, il se livre, il se transmet lui-même, il se communique lui-même à notre manière de le livrer aux autres. Il se livre à ça. À notre manière de le livrer aux autres, de le transmettre. En nous livrant, alors là, il faut que je reprenne ma phrase, sinon je vais me perdre. Hein, parce qu'il y a, la, il y a une logique ici, vous voyez, très précise. Il se livre aux hommes à leur manière, je parle ici en troisième personne, de le livrer aux autres en se livrant, donc il s'agit là des hommes, en se livrant à eux, aux autres, au cœur de la violence historique. Donc vous voyez, je dis, quand Dieu se livre à nous, il se livre à nous pour que nous le livrons aux autres, au cœur de la violence historique. Et cette violence historique qui est même à l'intérieur de l'Église. C'est-à-dire, qui est le plus grand dès le départ? C'est le plus petit. Donc il faut traverser ça. Dieu se livre donc, il se livre à leur manière, la manière des hommes, de le livrer aux autres, en se livrant à eux, donc il se livre lui aux hommes, au cœur de la violence historique. Le Christ affronte à sa manière la violence historique. Au centre de l'autorévélation est donc le don de soi ou la sainteté, et donc au même moment la trahison, aussi la trahison. Voilà, ça c'est le critère par excellence. Et c'est à partir de cela, mais on va d'abord faire la pause, qu'on va retourner à la modernité, et avec le point C, à la postmodernité. Et après, je vous laisserai un moment pour poser quelques questions. Parce qu'on a fini la première partie. Il y a juste une annonce, restez un instant. Du délégué de première année.
Donc, pour les premières années, vous avez dû recevoir un courriel de l'administration parlant des rendez-vous à prendre avec le directeur du premier cycle. Nous allons commencer un petit peu à regarder les dates puisque nous avons reçu les horaires des rendez-vous. Donc si vous pouviez vous rassembler autour de André qui est là et puis on verra comment on procède pour bien prendre tous les rendez-vous.
Je vais prendre quelques minutes encore pour terminer et ensuite on va essayer d'échanger un peu pour voir voilà, s'il y a des questions, lesquelles. Donc on a ici, je dirais, un point de départ dans cette formule que je vous propose à la fin du point A. Donc un critère de discernement. Un critère de discernement dans une situation très pluralisée et qui sera de plus en plus plurielle, dans la mesure où le christianisme est devenu un phénomène mondial et dans la mesure où le christianisme ne peut pas se contenter d'une uniformité. Ça serait contradictoire avec la Pentecôte. La multiplicité des langues. Chacun parlant sa propre langue comprend l'autre, vous voyez. On va encore préciser ça dans la troisième partie. D'où la question, qu'est-ce qui est constitutif? Alors, je l'ai dit avec un mot très simple, la sainteté du Christ. Mais ici, c'est une formule un peu plus complexe, donc qui tient compte du triangle évangile, mystère, révélation. Donc, Dieu se livre entre les mains des hommes, il se transmet radicalement aux hommes, ce que veut dire le terme auto-révélation, auto-communication. Cela veut dire, surtout quand on a lu les récits évangéliques, tels que je vous l'ai lu tout à l'heure, ils se livrent à leur manière de le livrer aux autres, ils se livrent en se livrant à eux au cœur de la violence historique. Ils ne riposte pas à la violence historique par la violence, il se livre, il se donne. Et ça se joue dans la relation entre le Christ, les siens, pour prendre ensemble disciples, apôtres, il aima les siens jusqu'au bout, voilà. Et quiconque, à ne pas oublier, la multitude, ça se joue à l'intérieur de cette relation-là. Au centre de l'autorévélation est le don de soi ou la sainteté. Voilà un critère, si vous voulez, je dirais. Le critère ultime dans une multiplicité de figures de christianisme. Et c'est à partir de ce point-là que nous pouvons revenir, je dirais, à la fois à la modernité, parce que c'est à l'époque moderne qu'est né le concept d'autorévélation. Et ensuite, à notre époque post-moderne et plurielle. Alors, la modernité, donc Vatican I et Vatican II, croire en un Dieu qui s'est définitivement livré à notre histoire. Donc là, j'insiste sur le définitivement. Vous vous rappelez, dans le premier chapitre, j'ai déjà beaucoup insisté là-dessus, tout à fait au début de cette partie. Le définitif est impliqué dans la notion d'autocommunication. Dieu, que pourrait-il nous donner d'autre une fois qu'il a tout donné? Il a livré son propre fils. Que peut-il donner encore plus? Voilà, ça c'est les formules pauliniennes. Définitivement, une fois pour toutes. Ce qui permet de sortir d'abord, premier fruit, et ça c'est moderne, sortir de la confusion entre Dieu et le monde. Voyez, Dieu n'est pas le concurrent de l'homme ou du génie humain. C'est une piètre conception du mystère. Voilà. Dieu n'a qu'une seule chose à nous dire. Il n'y a rien à nous révéler que nous pourrions découvrir par nous-mêmes. Vous rappelez cette formule que j'ai proposée au début? Il n'a rien à nous révéler, à nous communiquer de ce que nous pourrions nous découvrir par nous-mêmes en étant dans le monde. Il n'a qu'une seule chose à nous dire, c'est lui-même. Et lui-même comme notre destinée. Et du coup, on est sorti de la confusion. À partir de ce principe, une affaire Galilée n'est plus pensable. Il fallait du temps. Voilà. Vatican II le dit clairement. Donc ça, c'est le premier fruit. Alors, il, donc Dieu, s'est livré comme mystère. Et évidemment, il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire, nous sommes affrontés au mystère même de Dieu. Vous voyez, cette inversion dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le mystère lui-même de l'univers qui s'approche de nous. Et ça se passe entre Jésus et nous. Jésus se livrant entre nos mains. Et j'introduis ici un aspect que j'ai déjà évoqué, mais je reviens ici pour que vous puissiez bien relier les éléments. Vous voyez la notion de discrétion que j'ai introduit tout à l'heure en parlant de la relation entre Jésus et ses disciples et entre Jésus et quiconque. La discrétion du donateur. La discrétion du donateur. La chose la plus grande qu'on peut dire de Dieu, qui se communique lui-même, c'est sa discrétion. C'est-à-dire, il se cache. Dieu est un Dieu caché. Vous voyez, ce n'est pas comment dire quelque chose de négatif que j'ai dit à ce moment-là de lui, mais c'est la chose la plus positive que j'ai dit à ce moment-là de Dieu, c'est-à-dire il nous donne les choses de telle manière qu'il ne nous oblige pas à la réponse. Et ça, c'est les récits de guérison. 10 ont été guéris. 1 est revenu. Donc, voyez la liberté, la discrétion du donateur et la liberté du récepteur. Ça, c'est le point culminant. Le point culminant. Vatican II avait du mal à accéder à la liberté religieuse, à la liberté de l'acte de foi. Voyez, c'est impliqué dans la discrétion même de Dieu. Il se cache Dieu. Il se rappelle pas tous les jours à notre mémoire en, en frappant à notre porte, en nous disant, voilà, viens chez moi, librement, hein, librement. Et ça, c'est la sécularisation, c'est d'une certaine manière la chance de la sécularisation de nous mettre devant cette situation spirituelle. Donc la discrétion, la liberté de passer de la réception du don de la vie, c'est quiconque a reçu le don de la vie, de passer de la liberté de la réception du don de vie au donateur. Ça, c'est le disciple qui fait ça, qui retourne au donateur et au désir de l'imiter. De suivre et de l'imiter. Voilà, si vous voulez, je dirais, une manière moderne, grâce à la modernité, en ce sens-là, vous voyez, la modernité occidentale, il y a beaucoup de déviations là-dedans, évidemment, n'est-ce pas ? Laïcisme, d'idéologie, d'athéisme au sens négatif du terme, les totalitarismes, n'oublions pas ça, c'est sur le terrain de l'Europe quand même que ça s'est produit, l'idée de totalitarisme. Tout ça, oui. Mais derrière, il y a un mouvement spirituel de fond qui est positif et qui produit pour la foi chrétienne une nouvelle situation d'une exigence inouïe et en même temps d'une joie inouïe parce que, voilà, on est mis devant l'invisible, librement, librement. Ça, c'est la foi. Alors, croire en un Dieu qui s'est définitivement, une fois toutes, livré à notre histoire, pour être reçu aujourd'hui. Pour être reçu, voyez la recevabilité dont j'ai parlé depuis le début. Pour être reçu aujourd'hui. Alors là, je fais, à partir de la discrétion dont je viens de parler un pas de plus, la révélation n'existe pas en elle-même. J'espère que cette affirmation ne vous fait pas peur. Maintenant, elle n'existe pas en elle-même. Elle n'existe pas en dehors de la libre réception de Dieu, historique. La libre réception. Imaginons un instant que les apôtres aient pris la tangente définitivement. Le retour en Galilée, définitivement, mais le christianisme n'existerait pas. Il existe parce que finalement, ça a été reçu. Alors intervient là la résurrection, l'apparition du ressuscité, on tâchera de comprendre ce que ça peut dire. Donc voyez, ça aussi, nous comprenons aujourd'hui, évidemment dans une chrétienté, on ne pouvait pas comprendre cela. La révélation est un tout, un package, si je puis dire. Vous prenez ça ou vous prenez pas ça. Elle est là, n'est-ce pas ? Et il y a le sacré. Mais quand le sacré n'est plus là dans la société de cette manière-là, ou quand l'unique sacré est l'être humain, finalement. Alors, il faut bien dire, la révélation existe parce qu'il y a des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils l'ont reçue. Et vous comprenez de manière plus radicale la phrase, n'est-ce pas ? Dieu se livre entre les mains des hommes, il se transmet radicalement aux hommes. Et vous comprenez mieux la formule qu'on a eue dans la liturgie ces jours-ci, dans les textes de Luc. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi ? Trouvera-t-il encore la foi ? Bien sûr, il trouvera la foi de quiconque. Bien sûr. Mais la foi au sens chrétien du terme, des disciples. Donc parce qu'il y a des disciples depuis la résurrection et des apôtres, on peut dire il y a révélation. Donc la révélation n'existe pas en dehors de la libre réception historique. Les douze, l'Église, elle n'existe pas sans l'Église. La paradosis, maintenant la formule que je propose à laquelle on reviendra. La paradosis, donc la transmission, la livraison, comme dit Paul, effectivement vécue depuis 2000 ans, vaille que vaille, voilà. Effectivement vécu, où, je précise, le corps de la foi, voyez, le corps de la foi chair, c'est-à-dire dans les disciples, des apôtres, dans l'Église, les bâtiments, etc., tout ce que vous voulez, le corps de la foi est corps, celui que la foi est, concrètement dans l'histoire, en Inde, en Australie, je ne sais pas où encore, partout, les multiples corps de la foi, le corps de la foi, le corps qu'elle est, la foi, qu'elle reçoit. Parce qu'elle reçoit toujours à nouveau, à chaque période, d'une autre manière. Et qu'elle se donne, parce que c'est un acte de créativité aussi. Le corps de la foi est la seule trace de son origine divine. Et nous tous, le visage dévoilé, nous reflétons celui, voilà, la gloire du Christ. Donc, les chrétiens comme manifestation. Comme manifestation. Sinon, il n'y a que des textes, des bâtiments, tout ce que vous voulez. Voilà, donc la révélation n'existe pas en dehors de la libre réception historique. Et tout de suite, on tombe sur les ambiguïtés. Les Judas, à travers l'histoire. Voilà. Au cœur même des douze, le douzième. Et donc, au sein de la paradosis même, et apparaît ici le principe de réforme, l'Ecclesia semper reformanda. L'Église n'existe pas sans réforme, c'est-à-dire sans conversion collective et individuelle, c'est-à-dire une Église qui, pour se livrer, elle doit se livrer à celui qui s'est livré pour elle. Et donc se convertir continuellement. Donc en disant elle est sainte, elle doit reconnaître qu'elle n'est pas sainte. Et donc à le devenir, la réforme, semper reformanda, comme on a dit à partir du XIIe siècle déjà. Donc au cœur même de la paradosis, de cette livraison, il y a la réforme. Alors à partir de cela, on peut revenir donc à la postmodernité mondiale, c'est très rapide maintenant, la paradosis est effectivement livrée à la capacité, un seul mot va s'ajouter maintenant, plurielle des êtres de chair que nous sommes à la recevoir. Plurielle. En la réinterprétant continuellement dans tel ou tel contexte donné. Et vous avez là maintenant la clé de ma définition de la théologie donné lors de la première séance. Donc Dieu se livre non pas uniquement à un seul type d'être, mais à la pluralité, depuis la Pentecôte. Toutes les langues, et donc dans toutes les langues, il n'y a pas de foi chrétienne sans interprétation. Sans interprétation. Herméneutique, à partir du constitutif qui est le principe que j'ai indiqué tout à l'heure. Le principe, c'est un principe herméneutique de la herméneutique, pourrait-on dire. C'est un principe d'unité au sein même de la pluralité radicale des figures chrétiennes. Et donc la définition de la théologie, à la page 2, faire de la théologie, donc la page 8, pardon, de votre polycopie, le point B tout à fait en bas, c'est participer activement au mouvement même de la tradition chrétienne, donc à la paradosis, en la recevant et en la réinterprétant, et maintenant le critère, pour permettre à quiconque, l'homme d'aujourd'hui, de faire une expérience authentique de Dieu. De permettre à quiconque de devenir, de revenir toujours croyant, d'affronter son existence, et en faisant ça, de l'aider éventuellement, s'il veut librement, de passer du don reçu au donateur. Au donateur. Et ça ne peut se passer que de manière plurielle. Plurielle. Alors ça a une double implication. La réinterprétation doit rendre possible la liberté du don, donc le processus livraison et réception, ce qui est impossible sans réception, sans réinterprétation globale de la tradition dans une culture donnée. Donc, si vous exportez simplement un langage de l'extérieur, vous ne touchez pas le cœur humain, et donc la liberté du don n'est pas possible. Sans réinterprétation globale de la tradition dans une culture donnée, l'expérience de réception et de livraison n'est pas possible. Donc vous voyez, il y a un lien intime entre recevabilité et identité. Et ça, ça relève de la responsabilité de l'Église, de rendre l'Évangile recevable. Recevable, c'est pas comment dire amoindrir l'Évangile et de faire que finalement ce n'est plus l'Évangile, mais c'est le travail d'interprétation, de traduction dans telle ou telle culture. Parce que Dieu veut se rendre recevable, librement recevable. Donc là, on a la définition de la théologie. Donc, il y a une critique très radicale ici. Et je crois qu'on peut l'exprimer aujourd'hui en toute parésie, en toute franchise. La critique de l'idée d'une culture de référence ou d'une culture exemplaire. Comme si la culture de la chrétienté, c'est le cardinal Lercaro à Vatican II qui a pestiféré contre la culture latine, et il la connaissait parfaitement, mieux que tout autre, mais il dit on ne va pas imposer notre culture latine aux Africains, aux Indiens, aux Australiens, etc. Il n'y a pas de culture de référence dans la tradition chrétienne. Le pluriel est au point de départ, la Pentecôte. L'araméen, l'hébreu, le grec, le latin, le français, etc., etc. Donc, il n'y a pas de culture exemplaire, la culture méditerranéenne, occidentale. Cela nous reconduit vers la conception prophétique de la paradosis. Et je terminerai le cours avec ça. Vous voyez cette magnifique formule, cette promesse de Jérémie 31, repris par saint Jean, l'épître aux Hébreux aussi, ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, répétant, apprenez de moi à connaître le Seigneur, car ils me connaîtront tous, petits et grands. Ils me connaîtront tous, petits et grands. Alors là, c'est social, mais de toutes les langues, ils me connaîtront. Le prophète chrétien et l'apôtre ne sont plus prisonniers d'un passé au statut exemplaire. Vous voyez, comme si, je dirais, il fallait retourner continuellement vers l'époque du Christ. Mais la Galilée, c'est aujourd'hui. La Galilée, c'est aujourd'hui. Semeron, aujourd'hui, dans la ville de David, aujourd'hui. Et l'aujourd'hui peut se jouer partout. La Galilée des nations. Le prophète chrétien et l'apôtre ne sont plus prisonniers d'un passé au statut exemplaire, mais entrent avec leur propre expérience de foi dans un rapport synchronique de correspondance aux compagnons de la première heure. Nous sommes les compagnons des compagnons du Christ de la première heure. Voilà. Ils ne sont pas mieux que nous, et pas pire que nous. Ils n'ont pas plus de chance que nous, et pas moins de chance que nous. Parce que l'aventure de la foi, depuis le Christ, est toujours la même. Et vous voyez, ça c'est tout à fait décisif de dire aujourd'hui cela, parce que ça permet la déméditerranéisation, pardonnez-moi le néologisme, ça permet effectivement la déméditerranéisation de la foi chrétienne. Et non pas uniquement l'exportation de la foi chrétienne, mais véritablement la déméditerranéisation sur tous les continents. Et il relève sans doute de la responsabilité de la théologie méditerranéenne de penser ça, de rendre possible ça. Voilà. Alors, l'actuelle transformation de la théologie fondamentale, donc je pense qu'on peut voir, il y a trois choses qui sont passées au fond depuis Vatican II. Donc, la distinction des trois sujets de la foi, j'ai commencé ce soir par cela, quiconque disciple apôtre, la condition d'une déoccidentalisation de la proposition de la foi, je pense que j'en ai expliqué cela en revenant à la question du constitutif, le discerner, le constitutif. Et finalement, la question est de la vérité et de la crédibilité, qui sera au cœur de la deuxième partie du cours. J'y ai déjà répondu. C'est-à-dire en parlant de la sainteté comme l'ultime critère de crédibilité. Bien. Alors, on va se donner un petit moment pour réagir par rapport à des questions, peut-être. Ça me permet de faire une petite pause et je vais introduire rapidement ensuite la deuxième partie à la fin de notre séance. Alors, oui, il y avait d'abord quelqu'un qui m'a déjà parlé d'un papier. Donc, est-ce que vous, tout à fait au bout, est-ce que vous pouvez dire la question ? Vous l'avez formulée. Convertissez-vous. Ah oui, c'est pas dit comme ça, n'est-ce pas? Parce qu'aucun autre être humain, la Bible est très consciente, peut convertir. Voilà.
En tout cas, c'est comme ça que...
Faire des disciples. Oui, alors là, oui, vous touchez à des choses, deux choses différentes, mais qui sont quand même liées. Ah, ça, c'est une excellente question, et qui est, à mon avis, tout à fait centrale, et qui est, au fond, au cœur de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium. On pourrait entendre ce que je viens de vous proposer dans toute cette première partie, et notamment vers la fin, comme une renonciation, un renoncement à la mission. Mais c'est au fond le contraire que je vous invite de comprendre. Vous voyez, qu'est-ce que c'est finalement l'annonce de l'Évangile? Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que chez Marc, dans la finale de Marc, qui est toujours citée, et évidemment dans la finale de Matthieu surtout. Ce sont les deux textes de référence où les choses sont nettes, n'est-ce pas? C'est-à-dire annoncer donc l'Évangile, alors chez Marc, à toute la création, à toute créature, faites des disciples de toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il faut premièrement annoncer l'Évangile. Alors ça, c'est très net dans les récits évangéliques. C'est le rôle des douze, mais c'est le rôle de tout disciple d'annoncer l'Évangile. C'est-à-dire, il n'y a pas d'Évangile découverte, je dirais, de l'intériorité même de Dieu, Dieu comme Évangile, sans diffusion. Sans diffusion. Donc, annoncer l'Évangile. Le rendre recevable. Le rendre recevable. J'ai beaucoup insisté là-dessus. Alors, le rendre recevable face à la liberté d'autrui. Et ça, c'est le point peut-être qui arrive avec Vatican II avec tant de force. Avec tant de force. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer l'annonce de l'Évangile et le comment. Et le comment. Vous voyez, c'est ça le critère de concordance dont je parle depuis un petit moment. Donc, il faut que ce que j'annonce correspond à la manière de l'annoncer. Donc, ça veut dire, je le rends recevable, Mais je dois présupposer avec le Christ que cela dont je parle est déjà à l'œuvre en celui auquel je m'adresse. C'est ta foi qui t'a sauvé. Donc vous voyez, ça c'est essentiel chez Marc et chez Luc et chez Matthieu. Donc ça c'est la manière. Le rendre recevable et m'adresser à la liberté d'autrui. Sinon, je sors de la logique du don qui veut se rendre recevable, qui prend tous les moyens pour se rendre recevable, mais qui en même temps se cache. C'est-à-dire, pour donner toute la liberté au récepteur, voilà, de faire du don ce qui lui paraît en conscience le mieux, voilà, pour lui et le don qu'il a reçu. Donc ça, c'est le principe de gratuité, et donc au fond une pastorale non pas stratégique, non stratégique. Si vous prenez stratégie autant, je cherche les moyens pour la fin, je sais ce que c'est la fin, c'est-à-dire que l'autre en face de moi devient chrétien, donc je prends tous les moyens de séduction, de pub, ce que je veux, etc., pour arriver. Et non. Et le problème, c'est pas le nombre. Le roi David a eu quelques problèmes avec le nombre. Je sais pas si vous vous souvenez, il a commencé à faire des statistiques. Ça lui a coûté très 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 cher, hein. Très cher, hein. Alors en même temps, les actes des apôtres ont une logique de fécondité. Une logique de fécondité. Mais voyez, la fécondité, c'est toujours quelque chose qui nous surprend. Et si je commence à faire des, comment on appelle ça en français, les ONG, c'est-à-dire où les plantes qu'on commence à manipuler, etc. Les OGM, merci, voilà, voilà. Alors là, avec l'évangile, ça pose quelques problèmes. Voilà. Ça pose quelques problèmes. Alors, je suis pas allé au bout, n'est-ce pas, de votre question. Donc, la mission, l'évangélisation, fait partie de l'évangile lui-même. On a du mal à comprendre ça aujourd'hui. Parce qu'on a une telle peur de, parfois, de ça. Et la tolérance, voilà. On touche pas aux convictions d'autrui, etc., etc. Bah, non. Voilà. Ça, c'est décisif. Alors, faites de tous les peuples des disciples. Faudrait regarder le texte grec ici. Voyez, ça veut pas dire baptiser tous les peuples. Saint Paul, quand il arrive, n'est-ce pas, écrit l'épître aux Romains, il s'adresse aux Romains. Maintenant, je n'ai plus de boulot dans l'Orient de l'Empire. Tout l'Empire est évangélisé. Vous comprenez ça? Ça veut dire dans toutes les grandes villes, il y a un petit noyau de chrétiens qui loue Dieu et qui vit à la manière chrétienne. Ben, ça suffit. Il n'y a pas d'idée, comment dire, d'intégralité au sens que tout le monde doit devenir disciple du Christ. Non, 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 c'est-à-dire, c'est dans la pâte le ferment. C'est le sel de la terre, etc. Donc là, il faut bien, bien comprendre cela, parce que sinon, on interprète, je dirais, vous voyez, la mission, il fallait que nous traversions cette histoire, cette identification entre mission et colonisation. Alors, tout n'était pas mauvais. Surtout, ne jetons pas le bébé avec le bain ici. Tout n'était pas mauvais. Et je dirais, qui sommes-nous pour maintenant, après coup, je dirais, de vouloir juger? Non. Il y a quelque chose qui s'est passé à travers ça. Mais voilà, aujourd'hui, la conscience a évolué par rapport à cette question-là. Voilà, j'espère avoir un peu répondu. Alors maintenant, vous.
La question est un peu la même. Les
évêques... Ah, il faut leur poser la question. Là, vous avez la réponse dans la question, n'est-ce pas? Non, mais demandez-les si vous posez la question comme ça. Ou vous attendez autre chose de moi. C'est-à-dire, moi je pense, c'est-à-dire que le catéchisme de l'Église universelle Et les sous-produits, au meilleur sens du terme, c'est-à-dire les applications diocésaines, confondent, si vous voulez, je dirais, souvent, deux niveaux différents. Un manuel de la foi catholique, vous trouvez tout là-dedans, tout là-dedans, mais ce n'est pas le kérigme. Le processus kérigmatique est un processus initiatique. Et voyez, l'Église de France, l'Église catholique, je parle là de l'Église catholique, elle est dans un processus de transformation qui a commencé avec Ecclesia, donc il y a 3, 4, 5 ans, par là, et donc la catéchèse initiatique. Et là, vous avez quand même une prise de conscience de ce que je viens de vous dire pendant toute la première partie. Ah oui, mais je ne veux pas dire que ce soit achevé ou que tout le monde soit tout à fait conscient de ça. Non, mais c'est des processus longs. Hein. Ecclesia, le processus Ecclesia, donc ça veut dire le texte national d'orientation des évêques de France pour la catéchèse, qui est un texte remarquable. Voilà. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Voilà, sinon, moi, j'ai reçu ici encore deux, trois questions. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que veut dire l'expression « la socialisation du sens ». Donc, vous voyez, ça fait référence à la fin de la première partie de l'introduction. La question « comment socialiser la question du sens » signifie-t-elle que nous cherchons comment le christianisme peut être un chemin de sens pour toute la société ? Non, pas nécessairement. Voyez, là, j'introduisais plutôt une difficulté fondamentale dans les sociétés occidentales où le sens est très individualisé. Je donne sens à ma vie. Et nous manquons dans la société d'espace. Vous voyez maintenant les cafés de philosophie, par exemple. Voilà, ça c'est un espace où tout d'un coup, on voit un espace social naître où la question du sens peut se socialiser. On a ça dans certains centres culturels, dans des quartiers. Moi, je travaille plutôt à la campagne, dans le rural. On va naître ce genre de choses. On utilise des films, par exemple, aussi pour ça. Donc, on entre dans une socialisation de la question du sens. Et là, évidemment, la tradition chrétienne a un rôle à jouer. Elle est à la fois, je dirais, tributaire de cette crise de sens, parce que les fidèles ont du mal à exprimer leur foi d'une manière personnelle. Alors les groupes d'évangile nous aident un peu à ça, les groupes bibliques, de dire d'une manière personnelle un peu la foi. De ne pas répéter uniquement une doctrine, voilà, mais de dire la foi. Et de ne pas uniquement dire sa foi, mais d'entendre l'autre dire sa foi. Et en le partageant, en le socialisant, on se corrige aussi dans l'expression. Et il y a une sorte de régulation qui s'introduit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, là, une autre question. Que signifie la phrase vers une dimension sacramentelle de la révélation chrétienne ? Oui, alors ça, c'est un point très important que j'ai encore souligné un peu ce soir. Vous voyez, la notion d'événement. La notion d'événement. Parole et geste intimement liés. Donc, la tradition, ce n'est pas uniquement des paroles, c'est aussi des gestes. Et le premier geste, c'est celui de me mettre en jeu moi-même dans la transmission, en posant des gestes qui y correspondent, les gestes de guérison du Christ. Et voyez, la sacramentalité de l'Église, comme dit Lumen Gentium, ou les sacrements, le baptême, etc., sont au sens fort du terme, une expression, une concentration, une cristallisation de ce rapport geste et parole dans la transmission. Le couple forme et contenu recoupe-t-il le couple fides quae et fides qua ? Non. Voyez, la fides quae, je vous expliquais un peu cela. La fides quae, c'est le contenu de la foi. La fides qua, c'est l'acte d'adhésion au contenu de la foi. Alors le couple forme et fond est beaucoup plus global. Et dans la mesure où vous ne pouvez jamais séparer le fond et la forme. Et le principe de concordance que j'ai évoqué il y a quelques instants montre bien sûr cela. Je veux dire, je peux être parfaitement orthodoxe, fides quae, et même adhérer personnellement, fides quae, à cette foi, et emprunter ensuite des manières de transmettre sa foi, cette foi, qui est en contradiction, dans la forme, avec ce que je suis en train de transmettre. Parfaitement. Donc, vous voyez, c'est la forme même de la manière de recevoir et de livrer qui parle ou qui est la manifestation de l'autorévélation de Dieu. Bon, il nous reste 10 minutes, voilà, je vais peut-être prendre un peu le temps, mais n'hésitez pas parce que je peux aussi introduire dans la suite, il y a d'autres questions que j'ai reçues là, par exemple sur Dei Verbum, mais c'est en partie des questions qui concernent déjà la troisième partie du cours. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer par mail des questions ou de me les donner, et je vais essayer au fur et à mesure de réagir et de les intégrer. Alors, on va quand même introduire ce soir, pendant les 10 minutes, la deuxième partie du cours, pour faire la jonction. C'est ça l'enjeu. Donc on va passer maintenant avec la deuxième partie, donc la page 25, à la question de la crédibilité et donc à la fonction apologétique de la foi. Donc ce n'est plus la question la foi chrétienne c'est quoi, mais c'est la deuxième question, pourquoi adhérer à la foi chrétienne? Donc ce passage, si vous voulez, de quiconque à devenir disciple. C'est de ça dont il s'agit maintenant, ce passage. Nous ne sommes pas ici sans doute uniquement quiconque, nous sommes tous des quiconques, mais voilà, le passage au devenir disciple, on l'a vécu. Quelles sont les raisons qui rendent la foi crédible? Donc je reviens à la charte de la première lettre de Pierre, vous la retrouverez à la page 7. Et donc cette deuxième partie aura de nouveau 3 chapitres. Vient d'abord une question qui va nous préoccuper par un petit moment. Que peut-on attendre de la raison dans le domaine du sens de l'existence? Donc je reviens à cette question du sens de l'existence, cette orientation, l'anticipation du tout, sens de l'existence, et de la foi. Que peut-on attendre de la raison? Quelle raison? Donc, si vous feuilletez un tout petit peu, on va arriver donc ensuite au chapitre 2, où je vais vous proposer, je dirais, une réflexion un peu à la fois historique et actuelle sur la structure globale de l'argument de crédibilité. Alors, voyez, vous avez là le terme argument. Le propre de la raison, c'est d'argumenter. Il y a des pour et des contre. C'est la raison. Je pèse les arguments pour et contre, les motifs que j'ai. Vous voyez, derrière, il y a la question de la vérité. La question de la vérité. J'argumente. Et quel est donc l'argument de crédibilité? Quelle est sa structure? Et ensuite, très rapidement, à partir de la page 32, vient le chapitre 3, essentiel, les étapes de l'itinéraire, parce que nous allons voir que l'argumentation va suivre aussi un itinéraire et va se déployer dans la trace de l'itinéraire dont je vous ai parlé ce soir, l'itinéraire évangélique. Voilà donc l'organisation. Alors que peut-on attendre de la raison? Cette question des motifs de crédibilité est impliquée dans l'identité chrétienne. Ça, c'est très important. Je n'ai pas d'abord l'identité chrétienne et ensuite, je me demande, est-ce qu'elle est crédible? Mais la proposition de la foi, première partie du cours, suppose un lien intrinsèque entre identité et recevabilité. Vous, maintenant, vous avez compris, j'espère, pourquoi. logique du don, etc. Identité et recevabilité. On ne peut donc pas séparer la fonction herméneutique et la fonction apologétique. Et je traduis recevabilité, maintenant crédibilité. C'est la même chose. Dieu, que fait-il pour se rendre crédible à l'humanité ? Pour le formuler un peu comme ça. Dieu, qu'a-t-il pas entrepris dans notre histoire humaine de millions d'années pour se rendre crédible, recevable ? Voilà la question. Alors, pour aborder ça, je vais d'abord parler un peu d'une manière, je dirais, historique, la foi et raison dans la tradition et au Concile Vatican I. Et ensuite, je vais donner un exemple absolument décisif, et on prendra un peu de temps pour cela la prochaine fois, c'est la question des preuves de Dieu. Vous voyez, j'ai mis ça entre guillemets. Les preuves de Dieu. Les preuves de crédibilité. Est-ce que c'est des preuves ? Qu'est-ce que c'est ce machin ? Voilà. Alors, d'abord, foi et raison dans la tradition. Alors, vous voyez, point A. Je reprends ici maintenant, je vous dis ça encore ce soir, comme ça vous pouvez regarder vous-même, ce que j'ai dit à la page 19 et à la page 20. Voyez, si vous revenez à la page 19, l'identité dogmatique et l'identité kérigmatique dans l'histoire. Et je vous ai parlé de la première phase, tout à fait en bas, vers l'objectivation du kérigme. Saint Irénée, ensuite le 5e concile de Constantinople, vous voyez, progressivement, le dogme se met en place avec l'idée du développement, etc. Et évidemment, la raison joue dans cette première phase. Et ensuite vient la deuxième phase, le point B, à partir du XVIe siècle, la figure de Luther. Le kérigme revient avec force. Alors, l'époque des Pères, vous voyez, c'est l'Écriture qui est la trace, la trame, où se déploie à l'intérieur d'elle-même la raison. Elle se charge de raison, pourrait-on dire. Et quelle est cette raison ? C'est le logos néoplatonicien, avec Irénée, que j'ai cité, avec Augustin, avec Vincent de Lérins, que j'ai cité, la notion de développement, et finalement Constantinople II. La foi, l'expression de la foi, c'est l'Écriture. Et à l'intérieur de l'Écriture, c'est le résumé de l'Écriture, c'est les symboles. Vous rappelez de ça ? On en a parlé, le contenu, les symboles. Et donc, c'est la foi qui cherche l'intelligence. J'ai déjà cité cet adage à la page 7, « Fides querens intellectum ». Qu'est-ce qui va se passer à l'époque scolastique ? Donc la raison se déploie jusque-là à l'intérieur de la foi. Elle est importée de l'extérieur, c'est-à-dire tout le monde, grosso modo, est néoplatonicien, notamment au 4e, 5e siècle. Et alors cette raison-là, on la déploie à l'intérieur de la foi. Les raisons de croire chez saint Augustin, par exemple. Alors, à l'époque scolastique, donc au Moyen-Âge, l'éducation de la raison, donc le christianisme a intégré la raison. Fin de l'Empire romain, l'évangélisation de la Gaule, de la Germanie, de l'Angleterre, l'Espagne, les Wisigoths, etc., autour de la Méditerranée, s'est créée une sorte de civilisation chrétienne, la chrétienté. Et donc, le christianisme a intégré la raison, et en l'intégrant, il l'a éduqué, la raison. Il l'a éduqué, formé, et il va introduire une distinction extrêmement importante, et qu'on trouve déjà à partir du VIe siècle, entre les deux pouvoirs, donc le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, et entre la nature et la surnature. Et je vous renvoie au début de la somme théologique que nous avons lue, donc la doctrine philosophique et la doctrine révélée par Dieu. Donc ça, c'est l'époque scolastique. La raison est éduquée par le christianisme. On va distinguer les deux pouvoirs et les deux ordres, voilà le terme, l'ordre de la raison humaine, l'ordre de la révélation ou de la foi. Et on va tout d'un coup, alors c'est avec Anselme de Canterbury, on va pas s'intéresser à quiconque, mais quiconque, c'est l'insensé. Vous voyez, c'est l'antidote. L'insensé qui dit dans son cœur, comme dit le psalmiste 13, il n'y a pas de Dieu. Donc on va dialoguer avec l'insensé, qui va jusqu'à dire qu'il n'y a pas de Dieu. Et comment on va faire dialoguer avec l'insensé? C'est-à-dire, on va le mettre en contradiction avec lui-même. On va le mettre en contradiction avec lui-même. Vous voyez, ça c'est la stratégie de la raison. L'insensé, bon, on le laisse dire. Il va dire, il n'y a pas de Dieu. Alors, est-ce qu'il est conséquent avec lui-même? Est-ce qu'il est conséquent avec lui-même? Et ça, c'est Anselme de Canterbury. Il est mis en contradiction avec lui-même. Et du coup, de ce jeu, si je puis dire, argumentatif de la raison, où on met l'insensé qui dit, il n'y a pas de Dieu, mais dans la chrétienté, on ne peut pas dire, il n'y a pas de Dieu. On est dans une société chrétienne, donc c'est insensé de dire. On va le mettre en contradiction avec lui-même, et tout d'un coup, l'insensé lui-même sera obligé, s'il veut être cohérent avec lui-même, de dire Dieu, de dire Dieu. Et ça, c'est l'inversion, c'est intellectus querens fidem, c'est l'intelligence qui va vers la foi. Voyez, là, vous avez, avec les deux éléments, vous avez au fond la gestion des rapports entre foi et raison, à la fois à l'époque patristique et au Moyen-Âge, en très bref. Ça, c'est la première phase, donc si vous voulez, la phase, je dirais, de l'objectivation du kérigme. Et alors, avec le XVIe siècle, va commencer une nouvelle phase. Et je termine par là, je termine par là. Tout d'un coup, on va entrer dans un jeu d'opposition, pour la première fois, entre foi et raison. Entre foi et raison. Un jeu d'opposition. L'émancipation de la raison par rapport à la foi, les deux en opposition, et du coup, quand deux sont en opposition, c'est soit l'un qui va gagner, soit l'autre qui va gagner. C'est l'un ou l'autre. Et l'un, on l'appelle le fidéisme, donc la foi qui, à la limite, n'a plus besoin de la raison, et de l'autre côté, le rationalisme, c'est-à-dire c'est la raison qui récupère la mise. C'est soit la foi qui récupère la mise, soit la raison qui récupère la mise. À cause de la séparation des deux, il y a une sorte de violence qui va se produire. Ici, un jeu d'opposition, et les deux vont se situer au même plan. Et là, on est arrivé au Concile Vatican I, et c'est là où je vais reprendre la prochaine fois, la suite du récit.